Bonsoir et bienvenue dans cette émission. 30 morts, dont des femmes et des enfants, une dizaine de rescapés, d'importants dégâts matériels. Tel est le bilan du naufrage d'une embarcation motorisée ce lundi 13 avril sur le lac Tanganyika, à quelques kilomètres de la ville de Kalemi. D'après des sources locales, à la base de cet accident, la surcharge de l'embarcation et un vent violent qui soufflait sur le lac pendant une forte pluie. Le mardi 7 avril dernier, un autre naufrage s'est produit sur le lac Kivu. Bilan, 2 morts, une vingtaine de personnes portées disparues et 23 rescapés selon des sources de la société civile de Calais. Le mercredi 18 mars, sur le lac Albert, au niveau du village de Kamutachi, en territoire de Djougouanitouri, une embarcation en bois transportant plusieurs dizaines de passagers et des marchandises a sombré après avoir été surpris par de violents rafales de vent faisant au moins 8 morts et plusieurs disparus. Dans la nuit des 5 au 6 janvier 2026, sur le fleuve Congo, entre la chefferie de Dianga et le village de Bokuma, territoire de Bolomba, dans la province de l'Équateur, au moins 6 personnes ont trouvé la mort, 73 rescapés et plusieurs personnes ont disparu lors d'un naufrage. Comment expliquer cette série de naufrages en RDC et quelles mesures pour prévenir ces accidents? C'est à ces questions que nous allons tenter de répondre ce soir. Et nous recevons ici au studio Marc Gardi-Diana, il est journaliste et éditeur des médias Les Francs-Tireurs.net et Bâtisseur Afrique. Il est également analyste indépendant. Bonsoir Marc Gardi-Diana.
Bonsoir Guy Mathé, merci pour l'invitation.
En ligne, Emmanuel Mukundi, il est professeur à l'Université de Kinshasa, il est député national et cadre du regroupement politique de l'opposition Avançons, proche du parti Ensemble pour la République de Moïse Katumbi. Il est élu de Nyonzou dans la province du Tanganyika. Bonsoir professeur Emmanuel Mukundi.
Bonsoir, merci monsieur Guy.
Et aussi en ligne, Val Lemanga, il est président honoraire de la Commission nationale de la prévention routière CNPR et expert en transport multimodal. Bonsoir Val Lemanga.
Bonsoir Guy Mathé.
Bienvenue à tous une fois de plus dans cette émission.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions à tech@radiookapi.net.
Province de Tanganyika, naufrage d'une embarcation motorisée dénommée Mama Nikumbuke, ce lundi sur le lac Tanganyika à quelques kilomètres de la ville de Kalemi. Le bilan officiel, encore provisoire, fait état de 30 morts, dont des femmes et des enfants, une dizaine de rescapés et d'importants dégâts matériels. Difficile de connaître le nombre exact des passagers qui étaient à bord de la pirogue à cause de l'absence du manifeste. Les points avec Pauline Munanga.
La pirogue qui transportait des produits agricoles, notamment des sacs de feuilles de manioc, provenait du village Kasama et elle a fait naufrage au large de la localité de Kibanga vers 5h du matin. D'après des sources locales, à la base de cet accident, la surcharge de l'embarcation et un vent violent qui soufflait sur les lacs, accompagné par la pluie. Plusieurs marchandises ont été englouties dans les eaux. Des sources rapportent que des dizaines de personnes ont pris place à bord de la pirogue. 30 corps sans vie ont été repêchés ainsi que de survivants, indique le ministre provincial des Transports du Tanganyika. D'après des témoins, certains corps ont été inhumés sur place avec l'accord des autorités locales. Les mêmes sources indiquent que l'embarcation a quitté le village Kasama vers 4h du matin sans la présence des services de l'État. Le ministre provincial des Transports du Tanganyika, Noris Mulongoi, déplore le fait que certains conducteurs des bateaux ne sont pas identifiés et œuvrent dans la fraude en naviguant clandestinement sur les lacs sans les contrôles des services de l'État et sans aucun respect des mesures de sécurité de navigation. Lubumbashi, Pauline Munanga, Radio Okapi.
Merci beaucoup à vous, Pauline Munanga. Emmanuel Mukundi, vous êtes professeur à l'Université de Kinshasa, vous êtes député national et cadre du regroupement politique de l'opposition Avançons, proche du parti Ensemble pour la République de Moïse Katumbi. Vous êtes élu de Nyonzou dans la province du Tanganyika. Comment vous réagissez à ces naufrages qui viennent de se produire sur le lac Tanganyika au niveau des Kalemi?
Merci beaucoup, Monsieur Guy, de m'avoir invité dans ces débats républicains. La première des choses, c'est un peu compatible.
Professeur,
oui.
Votre ligne, c'est de... Est-ce que vous avez activé le mode main libre? Parlez normalement, oui. Téléphone. Non, parlez, essayez de désactiver ce mode. Parlez normalement.
Est-ce que là, vous me suivez?
Ça va, ça s'est amélioré, oui. Allez-y.
Ok, d'accord. Je disais que la première des choses, c'est pour vous dire merci de m'avoir associé à ces débats républicains. Et la deuxième chose, c'est présenter les condoléances à mon peuple, parce que là, je parle comme député élu du Tanganyika et rapporteur du caucus député du Tanganyika. Donc, au nom de tous mes collègues, nous compatissons et nous présentons les condoléances. Mais pourquoi? Ça, c'est la question qui est posée. En fait, c'est clair, c'est l'absence d'une politique générale de protection de la population. Et particulièrement, c'est l'absence des cas échéants des politiques de transport et des moyens de communication. On sait le voir avec l'absence des politiques de société structurée de transport. Nous n'avons pas de société de transport. Hier, on pouvait se déplacer par train, sans problème. On pouvait se déplacer par de grands bateaux, sans problème. On pouvait se déplacer par bus. Et les cas qui viennent d'arriver dans le quartier, dans le Tanganyika Academy particulièrement, ces villages-là n'ont pas de port. Ce sont des ports de fortune. D'habitude ou dans le temps, ces villages-là approvisionnaient la ville de Kalemie partant de la route. Par la route, ce n'est pas loin. C'est le fait qu'il n'y a pas de route. Alors, le gens se débrouillent de leur manière. Autre chose, c'est l'absence des politiques d'entretien de ce qui existe ou de l'existant. On ne balise pas. Les lacs Tanganyika, les gens naviguent, un grand lac comme celui-là, les gens naviguent sans balisage. Et donc, on le fait de manière naturelle. Il n'y a pas de dragage. Nous avons demandé, déjà ça fait 3 ans, les caucus Tanganyika demandent les dragues, non seulement pour le lac Tanganyika, mais également la rivière Lokuga, parce que c'est cette rivière qui fait dégager l'eau du lac. Je crois que vous avez appris les morceaux de terre qui se sont dépassés du lac Tanganyika suite à la montée des eaux. Et aujourd'hui, ça bouche le passage au niveau de la rivière Lokuga. Donc, il n'y a pas de dragage, il n'y a pas de système de balisage, il n'y a pas de système d'entretien. Autre chose, c'est l'absence des politiques de prévention. Il n'y a pas de politique de prévention. Aujourd'hui, ce qu'on utilise, ce sont des moyens de fortune. Normalement, les telles pirogues ne pouvaient pas, n'est-ce pas, transporter les gens et transporter beaucoup de bagages. Alors, mais puisque l'État ne donne pas d'autres alternatives, l'État n'a aucune autre politique pour pouvoir protéger la population, et la population se débrouille, et la population prend des bateaux comme ça, sans gilet de sauvetage, sans le contrôle technique des embarquements, sans le contrôle de contenu, c'est-à-dire en termes de personnes et des marchandises qui sont transportées. Donc, c'est la nature qui a horreur du vide, elle se débrouille elle-même. Voilà les conséquences.
Voilà.
Et d'ailleurs, le gouvernement...
Oui, lorsqu'on vous suit, on sent que, n'est-ce pas, vous avez observé de près, n'est-ce pas, ces secteurs-là. Mais quelles sont les initiatives à ces jours au niveau du Parlement par rapport à ces problèmes?
D'abord, déjà au niveau du Parlement, je parle particulièrement du Tanganyika. En 2024, dans le budget voté au niveau du Parlement, on a mis le moyen au ministère des Transports pour le drag. On a mis le moyen pour le balisage. Mais malheureusement, ce sont des moyens que nous mettons, mais qui vont ailleurs. Et c'est pourquoi je dis, c'est une absence totale, n'est-ce pas, de politique générale du gouvernement, et particulièrement dans le secteur des transports. Et autre chose, voyez-vous, quand les gens préfèrent quitter la nuit comme ça, quitter parfois quand il y a de pluie et des vents violents, c'est tout simplement pour éviter aussi des tracasseries. Je vous dis dans le lac Tanganyika, mais c'est un combat. entre le pêcheur, le voyageur et les agents de l'ordre. Donc vous ne pouvez pas faire 30 minutes sans qu'on vous arrête. Vous ne pouvez pas faire une heure sans qu'on vous arrête. Et donc voilà que les gens préfèrent marcher dans la clandestinité. Et malheureusement, les autorités comme nous se plaignent en se disant que bon, ils font dans la clandestinité. Et dans les ports de Fortis. Mon frère, vous vous rendez, vous trouvez tous les services qui sont là. Hygiène, pêche, ANER, DGM, donc, et toute police, armée. Donc tout le monde est là pour demander aux pauvres voyageurs. Et cela ne suffit pas. Si vous évitez la voie latiste, vous prenez la voie, c'est encore pire.
Voilà, donc vous rappelez que dans ces ports de fortune, tous les services publics sont là, n'est-ce pas, pour demander, pour faire une sorte de tracasserie à l'endroit des armateurs. Et mais malheureusement, ces services ne sont pas là pour pousser les armateurs à pouvoir respecter les règles apparemment. Notamment la navigation nocturne, les ports des gilets de sauvetage.
Mais mon frère, il faut pas aller très loin. Mais regardez ce qui se passe ici à Kinshasa. C'est que donc les régulateurs ne sont pas là pour réguler, ils sont là pour rançonner. Et c'est ce qui se passe dans ces ports de fortune. Quand vous arrivez dans ces ports-là, donc tout voyageur doit donner quelque chose. Tout colis doit être payé. Et ce n'est seulement pour un service, mais pour plusieurs services comme je viens d'énumérer. Et par conséquent, comme le voyageur, les petits commerçants, bon, ont aussi besoin de réaliser des profits, mais ils évitent. Hein? Et c'est voilà pourquoi ils sortent la nuit, ils sortent de moments où la nature ne permet pas.
Merci.
Et donc, j'insiste, la cause, c'est l'absence de politique générale, de protection de la population et surtout dans le secteur des transports.
Merci. On vous garde encore dans cette émission, professeur Emmanuel Mukundi, Mike Gardi Diana, journaliste et éditeur des médias lefranc-tireur.net et balise Baptiste plutôt Afrique. Vous êtes également analyste indépendant. Et vous également, comment vous comprenez cette série des naufrages en RDC?
Merci Guy Maté pour la parole, mais je crois que au-delà des arguments évoqués tout récemment, moi je pense qu'aujourd'hui c'est aussi une forme de léthargie qu'il y a dans l'organisation au niveau de l'intérieur. Moi ça me ramène dans ce que moi j'appelle toujours depuis un certain moment une forme de politico-centrisme de la vie de la République. On est concentré sur certains pôles de développement, on pense que la vraie économie, l'économie réelle n'est que dans les grandes villes. Je vous donne un exemple. Kalemi dont on parle aujourd'hui est un carrefour commercial, non seulement pour les territoires environnement, mais par la RN5 qui conduit juste à des postes frontaliers comme la Tanzanie, la Zambie ou encore le Burundi. Donc on est dans un contexte où aujourd'hui l'État congolais presque, en fait ça ne date pas que d'aujourd'hui, l'État congolais presque démissionnaire depuis un certain moment, ce qui justifie certaines réalités. Par exemple, pour le drame aujourd'hui, le premier des cas, moi je pense, c'est vrai, la structuration de ce secteur est un vrai problème, mais comment expliquer que dans un secteur, personne ne sait déterminer notamment les marges, des limites en termes de poids pour ces embarcations. D'abord, parce que quand il n'y a pas d'activité dans un secteur, la plupart des opérateurs qui œuvrent là-bas, ce sont beaucoup sont dans l'informel, ce qui justifierait le fait que par absence de documents, par absence des réglementations, qu'ils préfèrent courir les risques la nuit, juste parce que pour des raisons, on a besoin de ressources. Et donc on est dans un contexte d'un vide sidéral qui me prouve à suffisance qu'aujourd'hui on a un regard, on a un prisme très réduit sur l'organisation des économies au niveau interne. Quand vous avez un espace comme Kalemie.
Alors comment expliquer ce vide-là dès lors que le ministère des Transports a pris une série de mesures récemment? Il y a quand même des mesures qui ont été prises, mais qui apparemment ne produisent pas d'effet sur le terrain.
Malheureusement, je vais vous dire une vérité, c'est qu'on est malheureusement aussi dans la culture de corriger les problèmes structurels par des mesures et des initiatives conjoncturelles. Quand vous avez un problème qui date de 5, 10, 15 ans, qui sont devenus structurels comme ça, il ne suffit pas de prendre des mesures. Par exemple, Vous voulez exiger, par exemple, on parle aujourd'hui de l'absence de balises, ça c'est une vérité, il n'y a pas de moyen de signalisation. Quand vous avez des embarcations qui n'ont même pas de sonar pour pouvoir détecter les zones de danger, je vous prends l'exemple en novembre du naufrage au niveau de l'embouchure du Kaseï, où jusqu'à aujourd'hui, je vous parle, si vous arrivez, le bateau qui a naufragé quelques mois avant, le naufrage de novembre, continue à tourbillonner dans l'espace. Ça veut dire que même le service des gestions encore d'évacuation n'est pas fonctionnel. On est dans un contexte où on a presque l'impression que c'est un secteur abandonné parce qu'on ne comprend pas encore l'importance et la pertinence du secteur de transport maritime et fluvial dans l'organisation. On est un État qui n'a pas des marchés périurbains parce que la connectivité des provinces est un problème. On a deux valeurs. Le transport par voie maritime, mais également le transport par voie aérien. Si le transport par voie aérien, par excellence, semble déjà présenter beaucoup trop de problèmes à ces niveaux-là, je ne vous dis pas ce qu'il y a comme désordre à ces niveaux-là.
Et donc, on peut dire qu'il y a un problème de vision politique dans ce secteur, les transports.
Je crois que depuis toujours, il y a un sérieux problème. On s'en rend pas compte. Aujourd'hui, on parle de l'enclavement, oui. L'enclavement, c'est peut-être du fait qu'on a un prisme tourné vers le transport par route. Mais il existe des espaces. Je vous donne un exemple. Ceux qui vivent dans des îles, le Madagascar, comment fait le Madagascar pour organiser sa connectivité avec les autres pôles? C'est uniquement par voie maritime ou par voie aérienne. On est dans un contexte où on a la chance d'avoir 9 voisins où, pour certains, pour la plupart, même par de corridors, par voie de transport, on peut se connecter. Mais aujourd'hui, on a encore des atouts. L'idée n'est pas seulement de se cantonner sur ce qui ne marche pas, mais avec une organisation. Si on se permettait d'avoir tout ce qui entre dans le cadre de taxes et fiscaux dans ces différents secteurs, parce qu'il faut reconnaître que le département de marine continue à percevoir de l'argent comme il se doit, mais que finalement, encore dans la logique d'une taxe qui est une contrepartie d'un service, rien n'est fait dans ce contexte-là. Donc encore une fois de plus, il faut interpeller l'État congolais pour dire, on parle aujourd'hui du changement de paradigme. Le Congo aujourd'hui, on nous vante le 80 millions des terres arables, mais que valent nos 80 millions des terres arables si on ne sait pas mettre à profit la plupart des ressources qu'on a dans nos marchés périurbains qui existent de manière renfermés et qu'aujourd'hui, rien que des voies naturelles qu'on a, comme le voie maritime, on ne sait pas organiser le transport par voie lacustre, on ne sait rien organiser à ces niveaux-là. Et pour moi, c'est la limitation du fait de l'absence de la vision, surtout de la connaissance des caractéristiques de l'économie nationale.
Notre fleuve, le fleuve Congo, est un grand boulevard, mais qui est sous-exploité en matière de transport. Hein, ça, c'est selon certains experts. Comment vous expliquez ça?
Ah ben, c'est une vérité. Je vous donne un exemple. Kinshasa, aujourd'hui, on a un problème d'enclavement. Pourtant, aujourd'hui, avec la résolution des embouteillages, si on était structuré, le transport par voie maritime pouvait permettre à quelqu'un de quitter le centre-ville jusqu'à l'aéroport, sans forcément passer par le boulevard Lumumba, sans forcément se taper 3h, 4h de bouchons sur la route. On a suffisamment des espaces qu'on peut exploiter, malheureusement, l'absence d'une cohésion dans la vision. Et moi, je pense qu'à un moment donné, c'est parce qu'on ne prend pas conscience de ce qu'on est et on ne fait pas suffisamment d'efforts dans la lecture des caractéristiques de l'économie congolaise. Sinon, on nous vante les changements de paradigme, mais je rappelle, monsieur, que le changement de paradigme n'arrivera pas parce qu'on le dit, pas par les déclarations. Aujourd'hui, il faut étudier et savoir. On a deux valeurs différentielles, c'est l'énergie, c'est l'agriculture. Et pour pouvoir répondre à ces deux besoins-là, aujourd'hui, il faut comprendre la nécessité de connecter le Congo. J'aime utiliser cette phrase, les gens le trouvent peut-être extrême, mais c'est une vérité. Le Congo est peut-être le seul État au monde qui peut vivre en autarcie, parce qu'on a tout et même le reste. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est le président tunisien lors du sommet de la francophonie en RDC vers les années 2016. Et donc, on est dans un contexte aujourd'hui, il faut prendre conscience. Il n'y a pas qu'un problème du ministère de transport, mais je pense qu'ici, il y a une trilogie qu'il faut mettre en place. Je pense également qu'aujourd'hui, faut expliquer au ministère de l'économie. Investir dans l'économie, c'est également pouvoir avoir un regard sur les différents secteurs porteurs de croissance, et je crois que ce secteur-là en fait partie au regard des caractéristiques, au regard surtout de tremplin que ça présente pour les économies locales au niveau de l'intérieur.
Merci beaucoup, Mike Gavidiana. Vale Manga, vous êtes président honoraire de la Commission nationale de la prévention routière CNPR en sigle et expert en transport multimodal. Vous également, comment vous analysez cette problématique des naufrages en RDC?
Bien, merci beaucoup, Maté, de m'avoir accordé la parole. Bien sûr, le problème d'organisation au niveau du secteur de transport va bien sûr nous amener à pouvoir, n'est-ce pas, mieux nous organiser pour que la politique même du secteur des transports soit mise à match. Donc, tout ce que nous pouvons dire en ce qui concerne les naufrages, bien sûr, on en a déjà tout parlé. Bien sûr, il faut nécessairement qu'il y ait un plan national de transport. Sur ce plan-là, que nous aurons tous ces détails ayant trait au transport multimodal, c'est-à-dire le transport aérien, le transport maritime, le transport fluvial, lacustre. Donc, bien défini du secteur de transport. Comment voulez-vous qu'il y ait autant de naufrages dans plusieurs axes ayant trait au transport liquide? Donc, nous voyons que la politique de transport dans le secteur de transport n'est pas vraiment mise en application.
Et donc, toutes les mesures, Monsieur Valamanga, aussi longtemps qu'on n'aura pas, n'est-ce pas, ces plans nationaux des transports que vous avez prônés, aussi longtemps qu'on n'aura pas, n'est-ce pas, cette politique de protection des populations qu'a évoqué ici le député Emmanuel Mukundi, aussi longtemps qu'on n'aura pas cette vision politique dans ce secteur des transports comme l'a relevé Mike Gardidiana, toutes les mesures qui seraient prises ne pourraient pas produire des résultats attendus, c'est ça?
C'est ça. Il faut nécessairement que ce plan-là soit mis en application. Le plan de transport. Rappelez-vous, il y a quelques années, nous avions fait les états généraux des transports. Mais jusque-là, tout est mis en veilleuse. D'où il faut nécessairement que ce secteur-là, qui est un secteur économique, qui est un secteur très important pour la vie nationale, soit mis en application.
Alors, vous qui êtes expert, vous observez aussi ce qui se passe sur le terrain, dans les différents ports, même les ports de fortune. Mais comment vous expliquez le fait que les opérateurs ont tendance à vouloir voyager chaque fois la nuit, avec tous les risques, mais ils préfèrent voyager la nuit? C'est quoi l'avantage qu'ils peuvent avoir de voyager la nuit plutôt que de le faire pendant la journée?
Mais voyager la nuit, ça signifie la fraude.
La fraude.
C'est la fraude.
Ok.
Donc, les gens préfèrent mieux voyager la nuit pour qu'ils ne soient pas vus. Mmh. Donc, la fraude, le secteur de la fraude entraîne directement aux accidents. Mmh. C'est ça. La nuit, on... Il n'y a pas de balise, il n'y a pas de signalisation. D'où, automatiquement, il y a risque. Donc, à 99%, on voyage par fraude, on voyage, on ne sait pas où on va.
Ok.
Mais... Et puis, dès qu'il y a un mouvement, il y a un mouvement de vent violent, automatiquement on est pris et on est emballé dans le naufrage.
Merci Valemanga, on vous regarde encore dans cette émission. Oui, merci beaucoup. Nous allons maintenant donner l'occasion aux auditeurs qui sont en train d'appeler pour donner leur point de vue. Professeur Emmanuel Mukundi, vous allez réagir à la réflexion de l'auditeur qui nous appelle depuis la ville de Beni au Nord Kivu, c'est Stoïc Ngurumbura.
J'ai réagi à partir de la ville du Nord Kivu. La responsabilité est partagée. D'une part, l'État qui fait et contrôle des formalités pour enrichir les contrôleurs. D'autre part, les propriétaires des bateaux et pirogues qui exposent les vies des passagers à cause de l'argent. Sans oublier aussi l'irresponsabilité des passagers qui acceptent d'être embarqués dans de mauvaises conditions pour économiser leur argent. Que chaque acteur change sa manière d'agir pour limiter les risques de naufrage sur les eaux congolaises.
Professeur Emmanuel Mukundi.
Oui, merci beaucoup. J'encourage notre frère stoïque pour sa réflexion que j'apprécie. Mais je voulais quand même insister sur un fait. Je vais répondre à sa préoccupation. Lorsque l'on veut le développement, il faut investir absolument dans les infrastructures. Que ce soit les infrastructures routières, les ports, les aéroports, ainsi de suite. Mais tant qu'il n'y a pas cette politique générale, mais on peut parler du transport, on peut avoir le plan de transport, on peut avoir quoi que ce soit, ça sera vain. Parce que le développement, c'est un tout. Hein, ça va avec la cohésion dans tous les secteurs. Alors, pour répondre à la préoccupation des stoïques, qui dit que la responsabilité est partagée, je peux dire oui, mais non. Parce que l'organisateur, c'est l'État. Tout ce que nous faisons, c'est l'État qui doit réguler. Il y a un grand économiste du nom de John Maynard Keynes qui disait en 1933 que l'homme prix animal, surtout économiquement, d'où l'importance de l'intervention de l'État pour réguler ses comportements animaux. Le cas échéant, je prends le cas des Calais. Même les grands ports de Calais, mon frère le journaliste qui a bien analysé au départ, mais c'est plein de sable. C'est vraiment risquant. Alors si le grand port est en risque, a fortiori des ports de fortune. Et où est la part de la population là-dedans? Si ce n'est que l'État qui est incapable de donner à la population les infrastructures qu'il faut. Deuxièmement, lorsque la population choisit de voyager la nuit, là d'abord il faut comprendre que dans les lacs Tanganyika, il est bon de voyager la nuit. En tout cas, tous les bateaux, le grand bateau, c'est la nuit.
Pourquoi? C'est quoi l'avantage?
Le port à
c'est quoi l'avantage des voyages?
Il y a moins de tempêtes.
Ah, ok.
Et le lac est un peu calme. Mais alors, il faut que l'État régule aller partout au monde. Les aéroports, les avions, c'est beaucoup plus la nuit. Mais les services de l'État sont là pour réguler. Est-ce que chez nous, il y a l'absence des services de l'État? Je peux dire non, ils sont là même la nuit, mais ils ne sont pas là pour réguler, mais ils sont là pour remplir les poches et les poches de leur chef. Et ce que je dis, c'est vérifiable. Allez au Libongo de Baramoto. Vous allez vérifier ce que je vous dis là.
Oui.
Allez dans tout le parking. Vous allez vérifier ça. Et aujourd'hui, on nous tracasse avec les contrôles vignettes et consorts. Mais on vous arrête, la première des choses, on vous dit, bon, donnez-nous quelque chose. Et regardez les véhicules, ce qu'on appelle les esprits des morts. Est-ce qu'ils ont fait les contrôles? Mais ce qui compte pour ces agents, c'est remplir les poches. Et les agents ne le font pas d'eux-mêmes, parce qu'ils le font parce qu'ils sont mandatés par l'air. Autorité pour ça.
Voilà, vous avez annoncé.
La population peut avoir une responsabilité, mais je vous dis, c'est très très marginal.
Professeur.
Parce qu'on ne peut rien quand on n'a pas d'autre. Non, les motos à Calémie.
Vous avez annoncé, n'est-ce pas, qu'en 2024, en fait, vous avez rappelé en 2024, dans le budget 2024, il y avait un budget, n'est-ce pas, pour les dragages et pour les balisages, mais on n'a rien vu sur le terrain. Est-ce que vous n'avez pas tenté de fouiner pour savoir pourquoi est-ce que on n'a jamais balisé, il n'y a jamais eu des dragages, alors que le budget était prévu?
Je vous dis que je suis rapporteur de l'Ecofin de la SAM.
Allô, professeur.
National. C'est ce crédit-là a été en 25, on l'a fait. En 2025, au budget 2026, on l'a fait. Mais malheureusement, je ne sais pas si vous me suivez. Allô, vous me suivez?
On vous suit difficilement. Oui, allez-y quand même.
Oui, alors je disais, malheureusement, il y a ces détournements dans le budget de l'État. Il y a certains services à qui on n'accorde pas de moyens. Et d'autres services qui prennent les moyens des autres. D'où le dépassement que nous décrions chaque fois. Nous avons vérifié avec la RVR, en ce qui concerne les balises et les drags. Par exemple, à Congo, dans le fleuve, il y a un bateau balise, je crois financé par la Banque mondiale, qui est en montage, mais il restait juste un petit rien pour que ce bateau joue son rôle entre Bukama et Congolo, la partie navigable du Katanga. Mais nous...
Voilà.
Nous avons mis dans les crédits.
Problème des...
Dans le compte d'RVF, mais malheureusement, RVF n'a pas touché ces montants-là. C'est réaffecté ailleurs, en violation de la loi des finances. Voilà ce qui se passe.
Merci, Mac Gardi Diana. Vous allez réagir à la réflexion de l'auditeur qui est en train de nous appeler depuis Ubundu, dans la province de la Tchopo, c'est Ignace Ufumba.
Bonsoir à vous, Capi. C'est Ignace Ofumba depuis Ubundu dans la province de la Tchopo. Nous fustigeons cette série de naufrages qui trouvent les compétences et la légèreté des autorités dans ce secteur. Aujourd'hui au Congo, ça fait presque une décennie qu'on compte des morts par naufrage que dans tout autre moyen de transport. Nous regrettons pourquoi jusqu'alors aucune mesure n'est encore prise pour sécuriser ce secteur qui ne cesse à faire périr nos patriotes. Comment une embarcation de bois peut contenir un nombre de personnes alors que celle-ci est considérée comme transporteuse de marchandises? Aucun service n'a été là pour faire les constats et interdire cela. Le pays est géré par les opportunistes et non par les gouvernants. Chaque jour, on parle de naufrage, mais rien ne s'est fait.
Mike Gardiana.
Ben, je crois qu'il est revenu sur la plupart des éléments qu'on a évoqués ici. Par exemple, on continue à décrier quelles mesures prendre. La première des mesures, pour moi, qui est une mesure de fait, c'est que, au niveau des embarcations, il faut que les différents services de l'État sur place fassent leur travail. J'ai décrié tout à l'heure les caractéristiques techniques de la plupart de ces embarcations, des bateaux de fortune fabriqués localement, sans vraiment évaluer la vraie capacité d'accueil de ces engins. Mais je sais également qu'au niveau de différents services, il y a une forme de technicité qui peut limiter le nombre. Je comprends également l'instinct de survie de la plupart des populations environnantes ou de ce coin qui, pour des raisons économiques, préfèrent souvent prendre ces embarcations-là, parfois acceptent d'être le poids de trop, avec peut-être quelques prix revus à la baisse, mais c'est là où je reviens sur l'analyse très cohérente de notre frère d'avant, c'est que la responsabilité, certes partagée, on peut le partager à des proportions bien ténues. L'État est le premier responsable, ça c'est une vérité de fait. Mais je ne pense pas que Guy Maté, qui serait sur place, verrait une embarcation déjà remplie, sans gilet de sauvetage, ça permettrait de pouvoir accepter d'être juste au niveau des abords de cette embarcation, comme si on montait sur un engin roulant sur terre, déjà que c'est encore dangereux, et sans gilet de sauvetage est accepté juste parce qu'on estime que c'est question d'instinct de survie. À ce niveau-là, on ne sait pas traiter ni rigueur, mais la vérité, c'est que cette responsabilité véritablement est partagée. De la part de l'État, je reviendrai encore une fois de plus. La première des solutions pour résoudre ce problème, c'est pouvoir investir suffisamment dans ce secteur. Je me rappelle qu'on nous parlait ici, malheureusement, on ne parlait que de bateaux de pêche. On a comme l'impression que quand on parle de transport dans ce secteur-là, on est beaucoup trop tourné vers la pêche, le côté industriel de la réalité, mais c'est un vrai secteur de transport qui permet la connectivité des différents territoires, des différents pôles de développement. Et je crois que si l'on ne prend pas conscience de cette réalité-là, il nous est difficile de pouvoir réfléchir convenablement. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, l'État congolais manquerait de moyens. Je me rappelle les années 2016-2018, si j'ai bonne mémoire, 2017-2018, on a rétabli ITB Kokolo. La question c'est que où en sommes-nous aujourd'hui ? On est rattrapé par nos problèmes d'autrefois. Aujourd'hui, on parle souvent de chenille métal. Quelle est sa spécificité ? On a un espace avec une technicité, de gens capables de pouvoir répondre à un besoin sur place, mais encore une fois de plus, on a une vision très limitée. C'est presque aujourd'hui une société en faillite, alors qu'on devrait se reposer sur cette société, à défaut d'avoir un secteur attrayant qui permettrait aux différents investisseurs privés de pouvoir venir investir dans ce secteur, l'État congolais devrait faire œuvre utile de la plupart de moyens en sa disposition. On parle de budget, je ne reviens pas sur cette question-là. Et pour moi, je crois que la responsabilité, c'est que quand on parle du budget, nous, on a perdu le sens du caractère contraignant. Je rappelle toujours aux gens que la loi de finances est une loi qui est censée être respectée. Une loi qui a force de loi capable d'engendrer des fautes soit au niveau pénal, soit au niveau économique. Aujourd'hui, quelle est la valeur de la reddition de compte ? Généralement, c'est à ces niveaux-là que l'Assemblée nationale, autorité budgétaire, devrait être très rigoureuse à ces niveaux-là.
On a un parlementaire dans cette émission.
Exactement. Je crois qu'il est déjà revenu sur la plupart des questions. Ce que je demanderai, je serai très heureux et je soutiendrai demain, si je vois l'honorable, quoique rapporteur de la commission ECOFIN, ça voudrait dire qu'au cœur de la plupart des questions de ces engins-là, de pouvoir interpeller particulièrement le ministre de Transport. On ne peut pas continuer à vous donner des moyens sans justification, sans rélevabilité. C'est une question. Et je suis sûr que au regard des éléments qu'il a présentés lui-même, le problème s'est situé au niveau des allocations. Si on affecte de ressources que les allocations ne se font pas convenablement, parce qu'on estime que le ministère des Finances aurait privilégié certains secteurs, je crois que lui également, il doit être sur la sellette pour pouvoir répondre à ces niveaux-là. On parle aujourd'hui de la déconcentration du budget pour l'exercice 2026, avec quelques ministères pilotes. J'ai vu le ministère de Pêche et Élevage inclus parmi les 5 ministères pilotes pour exécuter librement leur budget, mais j'ai dit, pourquoi vous n'avez pas mis le secteur de transport alors qu'on a tout le problème ? Aujourd'hui, on vit une polémique parce que, encore une fois de plus, la transversalité entre les différents portefeuilles, mais également les entités du pouvoir comme centrale et provinciale, pose problème. J'étais tenté de dire également qu'il y a une responsabilité au niveau provincial, mais pour être juste, je me dirais, une province comme le Sankourou, avec une caisse de péréquation qui ne marche pas. Quelles sont les ressources de la province du Sankourou pour pouvoir répondre à ces exigences au niveau du secteur de transport ? Je crois que logiquement, on dirait que c'est minime. Encore une fois de plus, la responsabilité du gouvernement central. Donc on est dans un contexte aujourd'hui, j'estime, encore une fois de plus, la crainte de notre auditeur est légitime, mais l'État a suffisamment de ressources, le moyen aujourd'hui. On va mobiliser au niveau du marché international. Les priorités, certes, j'ai vu ce que le ministère des Finances a présenté, oui, c'est bien, mais je pense à un moment donné, l'attractivité d'une économie, c'est aussi au niveau de sa productivité interne. On parle de la RDC, on veut créer des millionnaires, mais je pense qu'à un moment donné, si on ne prend pas compte des potentiels qu'on a en interne, si on ne sait pas répondre au marché interne, je ne vois pas comment, par quelle magie, on serait un État capable de pouvoir interagir convenablement sur le marché international. On bénéficie de la GOA, on bénéficie aujourd'hui du marché britannique, mais on ne peut pas y répondre parce qu'on a suffisamment au milieu de nous des marchés enclavés, et aujourd'hui avec, je peux me permettre, l'honorable me contredira peut-être, mais aujourd'hui avec un investissement avec 3-4 milliards, on peut faire un grand travail aujourd'hui pour permettre, par le voie maritime, la crise fluviale, de reconnecter certaines zones importantes de la RDC. C'est pas sorcier, Guimaté.
Merci beaucoup, Magadi Diana. Vale Manga, vous allez aussi réagir à la... Bon, malheureusement, hein, vous allez constater qu'on n'a pas un délégué du gouvernement dans cette émission. On s'est battu pour avoir quelqu'un du ministère des Transports, mais ça n'a pas marché. Vale Manga, vous allez réagir à la réflexion de l'auditeur qui appelle depuis les Bazouélé, c'est Janvier Kasereka.
Janvier depuis Bazouélé. La série des naufrages enregistrés à la République démocratique du Congo montre clairement un problème profond dans le secteur du transport fluvial et lacustre. Ces moyens de déplacement, très utiles par la population, est devenu dangereux faute de contrôle et de respect des normes. Ces accidents sont souvent causés par la surcharge des embarcations, le non-respect des conditions météorologiques, le manque d'équipement de sécurité, gilets de sauvetage, l'absence de contrôle rigoureux par les autorités, l'utilisation d'embarcations en mauvais état. Pour protéger les Congolais qui utilisent ces moyens de transport, il est urgent d'imposer un contrôle strict avant chaque départ, nombre de passagers, état du bateau. Rendre obligatoirement les ports des gilets de sauvetage pour tous les passagers. Pourquoi les autorités ne renforcent-elles pas efficacement les contrôles des embarcations malgré les nombreux accidents?
Valemanga.
Bien, merci beaucoup pour cette intervention. Le gilet de sauvetage, par exemple, doit être bien, le gilet de sauvetage doit nécessairement être distribué à tout voyageur qui devra prendre une embarcation ou un bateau. Ça, c'est un. De deux, l'auditeur a pleinement raison. Il a pleinement raison. Pourquoi? Parce que la sécurité des usagers fluvial, des usagers ou encore doit être à la pointe de tout à l'ordre de tout.
Alors, Valemanga,
voilà un peu d'imaté ce que je peux dire en ce qui concerne notre ami Jean-Dé qui vient d'intervenir.
Oui, justement, quelles sont les mesures pour prévenir ce genre d'accident, hein? Vous avez parlé d'un plan national, n'est-ce pas, des transports, hein? Ça c'est sous le plan structurel, mais vous avez aussi évoqué les ports des gilets de sauvetage. Quelles sont les autres mesures qu'il faut, n'est-ce pas, appliquer pour prévenir tous ces accidents?
D'abord, le manifeste. Le manifeste dans des bateaux, dans des embarcations, doit être bien, ça doit sortir du carcan. C'est-à-dire, le manifeste doit être ce document qui guide ouais, le bateau. Et pour connaître la capacité de ces embarcations ou encore de ce bateau, on doit nécessairement voir le manifeste. Et puis, voir également le tonnage qu'il faut pour que le bateau ne puisse pas, ou encore ces embarcations ne puissent pas s'abîmer, ou encore ne puissent pas connaître le naufrage. Donc, il y a deux choses. Il y a le manifeste, également le tonnage qu'il faut mettre dans ces embarcations, encore dans les bateaux.
Merci. Nous tendons vers la fin de l'émission. Valemanga, vous allez conclure. Hein. C'est quoi votre conclusion?
Ma conclusion est celle-ci. La politique même du système de transport, la multimodalité de notre système de transport doit être d'application. Il faut un plan national de transport. Voilà un peu ce que je peux dire en liminaire. Il faut faire ce qu'il faut faire dans l'immédiat.
Merci, Emmanuel, professeur Emmanuel Mukundi. C'est quoi vos solutions, n'est-ce pas, pour sortir de cette situation, pour ne plus déplorer des accidents quotidiens sur nos fleuves, plutôt sur nos lacs, nos rivières et sur notre fleuve?
Bon, d'abord, avant de donner les solutions, je voulais dire surtout à Mike et à nous tous, arrêtons d'incriminer et de charger la population. Si Guy Maté, vous-même, mon frère et moi, s'est retrouvé dans ces villages-là, on prendrait ce même bateau. Parce qu'il n'y a pas d'autre possibilité. Bon, qui n'a jamais pris la moto à Kinshasa? Est-ce que les conditions des motos à Kinshasa sont celles qui doivent être pour les humains? Mais il arrive le moment où nous le prenons. Pas plus que hier, je venais de l'université, j'ai fait 5 heures d'embouteillage. Et donc, je pouvais prendre soit la moto, soit faire pied. Heureusement, j'étais à 3 km presque de ma maison, j'ai fait pied à 23 heures. Vous pouvez vous imaginer.
Voilà.
Donc, la population ne peut pas être chargée.
C'est quoi vos propositions?
Alors, ma proposition, d'abord, les ministres des Transports devraient démissionner. Ça, c'est la première proposition. Ça donnait une leçon. Au cas où ils ne démissionnent pas, les gouvernements responsables devaient le mettre à la porte. Parce que, imaginez-vous, le catalogue tel que vous l'avez présenté, et demain, on s'appelle ministre des Transports et Voies des Communications, mais c'est grave. Et qu'on s'appelle gouvernement. Même si on dit on devait interpeller, combien de fois nous interpellons chaque mercredi? Chaque mercredi, nous interpellons le gouvernement. Et nous donnons des recommandations. Mais ces recommandations tombent comme dans un coup de TP dans l'eau. Et donc, moi, je suis d'accord avec notre ami qui a dit « Nous sommes gérés par les opportunistes ». C'est ça ma conclusion.
Merci, Mike Gavidiana. Votre mot de la fin, hein. Vous avez insisté sur le fait qu'on doit investir, n'est-ce pas, dans ce secteur des transports. Mais qu'est-ce qu'il faut encore faire, n'est-ce pas, pour prévenir tous ces accidents, dans l'immédiat surtout?
Je crois que dans l'immédiat, il faut identifier. C'est comme je dis, Calémy et les autres, il est quand même important que le gouvernement central regarde un peu les différentes zones. Je répète, j'ai déjà été à Calémy plus d'une fois. Je connais les réalités internes. Il faudra qu'autant qu'on est capable de mettre 160 millions de dollars américains pour aider le gouvernement provincial de Kinshasa, autant on doit être en mesure de pouvoir le faire pour pouvoir sauver des vies. Répondre et de manière structurelle, dans la plupart des secteurs, on a l'habitude d'identifier ces genres de cas. Mais je crois également, une fois de plus, il faut qu'on applique la politique de la sanction. La plupart de services de l'État qui sont sur place, de par leurs agents, n'aident pas l'État. C'est là où je dis, on ne va pas continuer sur ces débats-là. Ici, l'idée n'est pas de charger la population, mais c'est une idée de pouvoir engager un contrôle citoyen. Je crois qu'à un moment donné, quand les choses ne sont pas faites dans le sens de pouvoir préserver votre vie, on a le droit de dire non à certaines orientations. On ne va pas, comme dans une sorte d'abattoir, aller parce que pour des questions d'instinct de survie. Je connais cette réalité, je sais que la plus grande responsabilité, si vous voulez des chiffres sur l'échelle de 1 à 10, je crois qu'à 80% ou à 90%, si vous voulez, je vais plus mieux. À 95%, c'est la responsabilité du gouvernement, mais je veux également qu'il y ait un contrôle citoyen, une réaction de la part de cette population pour montrer que les conditions qui organisent le secteur de transport dans la plupart de ces provinces-là sont chaotiques. Ça ne servirait à rien de nous chanter la mobilisation de ressources, ça ne servirait à rien de parler des indicateurs over si l'économie locale en interne continue à souffrir autant jusqu'à conduire à des morts. Ça, c'est inadmissible.
Merci, c'est par là que nous finissons cette émission. Merci à vous tous d'avoir accepté d'y participer, professeur Emmanuel Mukundi, monsieur Mike Gavidiana et monsieur Val Manga. Et vous allez constater, hein, vous avez constaté qu'on n'a eu personne du ministère des Transports dans cette émission. Merci également à tous les auteurs qui sont intervenus dans cette émission. Merci aussi à Benjamin Moudoumbi qui l'a réalisé, à Jean-Claude Nsiala qui était à la technique, et Dieudonné Nyangasa qui a assuré le live de cette émission, à la présentation Guy Maté. Merci encore et bonne suite de programme sur Radio Capi.